Chapitre 88 Le bras et l'esprit. Le souper fut silencieux, mais non pas triste, car de temps en temps, un de ses fins sourires, qui lui était habituel dans ses moments de bonne humeur, illuminait le visage de D'Artagnan. Porthos ne perdait pas un de ses sourires, et à chacun d'eux, il poussait quelque exclamation qui indiquait à son ami que, quoiqu'il ne la comprît pas, il n'abandonnait pas davantage la pensée qui bouillonnait dans son cerveau. Au dessert, D'Artagnan se coucha sur sa chaise, croisa une jambe sur l'autre et se dandina de l'air d'un homme parfaitement satisfait de lui-même. Porthos appuya son menton sur ses deux mains, posa ses deux coudes sur la table et regarda D'Artagnan avec ce regard confiant qui donnait à ce colosse une si admirable expression de bonhomie. « Eh bien, » fit D'Artagnan au bout d'un instant. « Eh bien, » répéta Porthos. « Vous disiez donc, cher ami ?»«
Moi, je ne disais rien. » »«
Si fait, vous disiez que vous aviez envie de vous en aller d'ici. » »«
Ah, pour cela, oui, ce n'est pas l'envie qui me manque. » »«
Et vous ajoutiez que, pour vous en aller d'ici, il ne s'agissait que de desceller une porte ou une muraille. »
« C'est vrai, je disais cela, et même je le dis encore. »
« Et moi, je vous répondais, Porthos, que c'était un mauvais moyen et que nous ne ferions point 100 pas sans être repris et assommés, à moins que nous n'eussions des habits pour nous déguiser et des armes pour nous défendre. »
« C'est vrai, il nous faudrait des habits et des armes. »
« Eh bien, dit D'Artagnan en se levant, nous les avons, ami Porthos, et même quelque chose de mieux. »
« Bah ! » dit Porthos en regardant autour de lui.
« Ne cherchez pas, c'est inutile. Tout cela viendra nous trouver au moment voulu. »
« À quelle heure à peu près avons-nous vu se promener hier les deux gardes suisses ?»«
1 heure, je crois, après que la nuit fût tombée. S'ils sortent aujourd'hui comme hier, nous ne serons donc pas un quart d'heure à attendre le plaisir de les voir. Le fait est que nous serons un quart d'heure tout au plus. »
Vous avez toujours le bras assez bon, n'est-ce pas, Porthos ?
Porthos déboutonna sa manche, releva sa chemise et regarda avec complaisance ses bras nerveux, gros comme la cuisse d'un homme ordinaire.
« Mais oui, dit-il, assez bon.
De sorte que vous feriez, sans trop vous gêner, un cerceau de cette pincette et un tire-bouchon de cette pelle. »
« Certainement, dit Porthos.
Voyons, dit D'Artagnan. Le géant prit les deux objets désignés et opéra avec la plus grande facilité et sans aucun effort apparent les deux métamorphoses désirées par son compagnon.
« Voilà, dit-il.
« Magnifique, dit D'Artagnan, et véritablement vous êtes doué, Porthos.
« J'ai entendu parler, dit Porthos, d'un certain Milon de Crotone qui faisait des choses fort extraordinaires, comme de serrer son front avec une corde et de la faire éclater. De tuer un bœuf d'un coup de poing et de l'emporter chez lui sur ses épaules. D'arrêter un cheval par les pieds de derrière, etc., etc. Je me suis fait raconter toutes ces prouesses là-bas à Pierrefonds et j'ai fait tout ce qu'il faisait, excepté de briser une corde en enflant mes tempes.
C'est que votre force n'est pas dans votre tête, Porthos, dit D'Artagnan.
Non, elle est dans mes bras et dans mes épaules, répondit naïvement Porthos.
« Eh bien, mon ami, approchons de la fenêtre et servez-vous de votre force pour desceller un barreau. Attendez que j'éteigne la lampe. »
Porthos s'approcha de la fenêtre, prit un barreau à deux mains, s'y cramponna, l'attira vers lui et le fit plier comme un arc, si bien que les deux bouts sortirent de l'alvéole de pierre où depuis 30 ans le ciment les tenait scellés.
« Eh bien, mon ami, dit D'Artagnan, « voilà ce que n'aurait jamais pu faire le cardinal, tout homme de génie qu'il est. »«
Faut-il en arracher d'autres ?» demanda Porthos.
« Non pas, celui-là nous suffira. Un homme peut passer maintenant. »
Porthos essaya et sortit son torse tout entier.
« Oui, » dit-il.
« En effet, c'est une assez jolie ouverture. Maintenant, passez votre bras. »
« Par où ?»
Par cette ouverture.
Pourquoi faire?
Vous le saurez tout à l'heure. Passez toujours. Porthos obéit, docile comme un soldat, et passa son bras à travers les barreaux.
« À merveille !» dit D'Artagnan.
« Il paraît que cela marche ?»«
Sur des roulettes, cher ami. »«
Bon, maintenant, que faut-il que je fasse ?»«
Rien. »«
C'est donc fini ?»«
Pas encore. »
« Je voudrais cependant bien comprendre, » dit Porthos.
« Écoutez, mon cher ami, et en deux mots, vous serez au fait. La porte du poste s'ouvre, comme vous voyez. »«
Oui, je vois. » »«
On va envoyer dans notre cour, que traverse M. de Mazarin pour se rendre à l'orangerie, les deux gardes qui l'accompagnent. » »«
Les voilà qu'ils sortent. » »«
Pourvu qu'ils referment la porte du poste. » »«
Bon, ils la referment. » »«
Après ?»
« Silence ! Il pourrait nous entendre. »«
Je ne saurais rien, alors. » »«
Si fait, car à mesure que vous exécuterez, vous comprendrez. » »«
Cependant, j'aurais préféré... »«
Vous aurez le plaisir de la surprise. » »«
Tiens, c'est vrai, » dit Porthos.
« Chut !»
Porthos demeura muet et immobile. En effet, les deux soldats s'avançaient du côté de la fenêtre en se frottant les mains, car on était, comme nous l'avons dit, au mois de février et il faisait froid. En ce moment, la porte du corps de garde s'ouvrit et l'on rappela un des soldats. Le soldat quitta son camarade et rentra dans le corps de garde.
« Cela va donc toujours ?» dit Porthos.
« Mieux que jamais, » répondit D'Artagnan. « Maintenant, écoutez, je vais appeler ce soldat et causer avec lui, comme j'ai fait hier avec un de ses camarades. Vous rappelez-vous ?
Oui, seulement je n'ai pas entendu un mot de ce qu'il disait.
Le fait est qu'il avait un accent un peu prononcé. Mais ne perdez pas un mot de ce que je vais vous dire. Tout est dans l'exécution, Porthos.
Bon, l'exécution, c'est mon fort.
Je le sais par Dieu bien. Aussi, je compte sur vous.
Dites.
Je vais donc appeler le soldat et causer avec lui.
Vous l'avez déjà dit.
Je me tournerai à gauche, de sorte qu'il sera placé, lui, à votre droite au moment où il montera sur le banc.
Mais s'il n'y monte pas ?
Il y montera, soyez tranquille. Au moment où il montera sur le banc, vous allongerez votre bras formidable et le saisirez au cou. Puis, l'enlevant comme Toby enleva le poisson par les ouïes, vous l'introduirez dans notre chambre en ayant soin de serrer assez fort pour l'empêcher de crier.
« Oui, dit Porthos, mais si je l'étrangle ?»«
D'abord, ce ne sera qu'un Suisse de moins.
Mais vous ne l'étranglerez pas, je l'espère.
Vous le déposerez tout doucement ici et nous le bâillonnerons et l'attacherons, peu importe où, enfin quelque part. Cela nous fera d'abord un habit d'uniforme et une épée. »
« Merveilleux, dit Porthos, en regardant D'Artagnan avec la plus profonde admiration.
« Hein ?» dit le Gascon.
« Oui, reprit Porthos en se ravisant.
« Mais un habit d'uniforme et une épée, ce n'est pas assez pour deux.
« Eh bien, est-ce qu'il n'a pas son camarade ?»«
C'est juste, dit Porthos.
« Donc, quand je tousserai, allongez le bras, il sera temps. »
« Bon. » Les deux amis prirent chacun le poste indiqué. Placé comme il était, Porthos se trouvait entièrement caché dans l'angle de la fenêtre.
« Bonsoir, camarade !» dit D'Artagnan de sa voix la plus charmante et de son diapason le plus modéré.
« Bonsoir, mon sire !» répondit le soldat.
« Il ne fait pas trop chaud à se promener, » dit D'Artagnan.
« Bouh !» dit le soldat.
« Je crois qu'un verre de vin ne vous serait pas désagréable. »«
Un verre de vin, il serait le bienvenu !»
« Le poisson mort, le poisson mort !» murmura D'Artagnan à Porthos.
« Je comprends, » dit Porthos.
« J'en ai là une bouteille, » dit D'Artagnan.
« Une bouteille ? » ?»«
Oui. »
« Une bouteille blaine ?»«
Tout entière, et elle est à vous, si vous voulez la boire à ma santé. »«
Eh, moi, fouloir bien ?» dit le soldat en s'approchant.
« Allons, venez la prendre, mon ami, » dit le Gascon.
Bien volontiers. J'ai crois qu'il y a un pan.
Oh, mon Dieu, on dirait qu'il a été placé exprès là.
Montez dessus.
Là, bien, c'est cela, mon ami.
Et D'Artagnan toussa.
Au même moment, le bras de Porthos s'abattit. Son poignet d'acier mordit, rapide comme l'éclair et ferme comme une tenaille, le cou du soldat, l'enleva en l'étouffant, l'attira à lui par l'ouverture au risque de l'écorcher en passant, et le déposa sur le parquet, où D'Artagnan, en lui laissant tout juste le temps de reprendre sa respiration, le bâillonna avec son écharpe et, aussitôt bâillonné, se mit à le déshabiller avec la promptitude et la dextérité d'un homme qui a appris son métier sur le champ de bataille. Puis le soldat, garrotté et bâillonné, fut porté dans l'âtre dont nos amis avaient préalablement éteint la flamme. « Voilà toujours une épée et un habit, » dit Porthos. « Je les prends, » dit D'Artagnan. « Si vous voulez un autre habit et une autre épée, il faut recommencer le tour. « Attention, je vois justement l'autre soldat qui sort du corps de garde et qui vient de ce côté. » « Je crois, dit Porthos, qu'il serait imprudent de recommencer pareille manœuvre. On ne réussit pas deux fois à ce qu'on assure par le même moyen. Si je le manquais, tout serait perdu. Je vais descendre, le saisir au moment où il ne se défiera pas, et je vous l'offrirai tout bâillonné. »« C'est mieux, répondit le Gascon. « Tenez-vous prêt, dit Porthos en se laissant glisser par l'ouverture. La chose s'effectua comme Porthos l'avait promis. Le géant se cacha sur son chemin, et lorsque le soldat passa devant lui, il le saisit au cou, le bâillonna, le poussa pareil à une momie à travers les barreaux élargis de la fenêtre et rentra derrière lui. On déshabilla le second prisonnier comme on avait déshabillé l'autre. On le coucha sur le lit, on l'assujettit avec des sangles. Et comme le lit était de chêne massif, et que les sangles étaient doublées, on fut non moins tranquille sur celui-là que sur le premier. « Là, dit D'Artagnan, voici qui va à merveille. Maintenant, essayez-moi l'habit de ce gaillard-là, Porthos. Je doute qu'il vous aille. Mais s'il vous est par trop étroit, ne vous inquiétez point, le baudrier vous suffira, et surtout le chapeau à plumes rouges. » Il se trouva par hasard que le second était un Suisse gigantesque, de sorte qu'à l'exception de quelques points qui craquèrent dans les coutures, tout alla le mieux du monde. Pendant quelque temps, on entendit que le froissement du drap, Porthos et D'Artagnan s'habillant à la hâte. « C'est fait, » dirent-ils en même temps. « Quant à vous, compagnons, » ajoutèrent-ils en se retournant vers les deux soldats, « il ne vous arrivera rien si vous êtes bien gentils, mais si vous bougez, vous êtes morts. » Les soldats se tinrent quoi ? Ils avaient compris, au poignet de Porthos, que la chose était des plus sérieuses et qu'il n'était pas loin du monde question de plaisanter. « Maintenant, dit D'Artagnan, vous ne seriez pas fâché de comprendre, n'est-ce pas, Porthos ?»« Mais oui, pas mal. »« Eh bien, nous descendons dans la cour. »« Oui. »« Nous prenons la place de ces deux gaillards-là. »« Bien. »« Nous nous promenons de long en large. » Et ce sera bien vu, attendu qu'il ne fait pas chaud. Dans un instant, le valet de chambre appelle, comme hier et avant-hier, le service. Nous répondons ? Non, nous ne répondons pas, au contraire. Comme vous voudrez, je ne tiens pas à répondre. Nous ne répondons donc pas, nous enfonçons seulement notre chapeau sur notre tête et nous escortons son éminence. Où cela ? Où elle va, chez Athos. Croyez-vous qu'il sera fâché de nous voir ? Oh ! S'écria Porthos. Oh ! Je comprends. Attendez pour vous écrier, Porthos, car sur ma parole, vous n'êtes pas au bout, dit le Gascon tout goguenard. Que va-t-il donc arriver ? Dit Porthos. Suivez-moi, répondit D'Artagnan. Qui vivra, verra. Et, passant par l'ouverture, il se laissa légèrement glisser dans la cour. Porthos le suivit par le même chemin, quoiqu'avec plus de peine et moins de diligence. On entendait frissonner de peur les deux soldats liés dans la chambre. À peine D'Artagnan et Porthos eurent-ils touché terre qu'une porte s'ouvrit et que la voix du valet de chambre cria « Le service !» En même temps, le poste s'ouvrit à son tour et une voix cria « La Bruyère et Dubartois, partez !» « Il paraît que je m'appelle La Bruyère, » dit D'Artagnan. « Et moi, Dubartois, » dit Porthos. « Où êtes-vous ? demanda le valet de chambre, dont les yeux éblouis par la lumière ne pouvaient sans doute distinguer nos deux héros dans l'obscurité.
« Nous voici, » dit D'Artagnan.
Puis, se tournant vers Porthos,
« Que dites-vous de cela, monsieur du Vallon ?»«
Ma foi, pourvu que cela dure, je dis que c'est joli. »